Lira FM, le journal. Jules Julio Itadé.
Auditeurs de Lira FM, bonjour et soyez les bienvenus dans ce journal du 23 mars. Les articulations. Lutte contre l'impunité en RCA. En fin de visite de 3 jours en RCA, le procureur de la CPI a été reçu ce jeudi par le chef de la MINUSCA. Plus de détails dans ce journal. Reconstruction post-crise à Bakala. L'ONG MerciCorps s'implique. Et enfin, 44 pays africains signent un accord créant une zone de libre-échange continentale perçue comme essentielle au développement économique de l'Afrique par le biais d'une hausse du commerce intra-africain. À la une de ce journal. Voilà pour le sommaire.
Lira FM.
Les détails. Lutte contre l'impunité en RCA. En fin de visite de 3 jours en Centrafrique, le procureur de la Cour pénale internationale CPI, Fatou Bensouda, a été reçu ce 22 mars par le chef de la MINUSCA, Parfait Onanga Anyanga, au siège de la mission onusienne à Bangui. À sa sortie d'audience, Fatou Bensouda s'est exprimé au micro de Boris Gwagouni. Suivant.
En fin de l'année 2014, après que les autorités centrafricaines ont déféré la situation sur leur territoire, j'ai décidé d'ouvrir une deuxième enquête en Centrafrique. Depuis lors, les représentants de mon bureau ont recueilli et continuent à recueillir des éléments de preuve et de témoignages liés aux crimes commis depuis le 1er août 2012. J'ai estimé qu'il était important d'enquêter simultanément sur les deux parties belligérantes compte tenu de la dynamique de ce conflit. Nous concentrons donc notre action sur l'enquête relative aux allégations de crimes commis par les deux camps, à savoir les groupes armés de la Seleka et des anti-Balaka. C'est pourquoi mon bureau a toujours souligné l'importance de la coopération qui doit occuper une place importante dans notre travail au quotidien.
À Bossangwa, la section droits de l'homme de la MINUSCA a organisé un atelier de sensibilisation sur la lutte contre la discrimination raciale et la promotion de la tolérance. C'est à l'occasion de la journée internationale pour l'élimination de la discrimination raciale. Une soixantaine de personnes des services étatiques, des confessions religieuses, de la société civile, des groupes armés et de l'éducation y sont regroupées pour des travaux de groupe. Selon le préfet de l'OAM, les thématiques retenues sont d'actualité dans l'OAM et le message reçu de la MINUSCA doit être véhiculé partout dans le pays. Marcel Guéla, au micro de Tiesera Dambélé.
C'est l'intolérance et la non-acceptation de l'autre qui ont fait qu'il y a beaucoup de troubles dans notre pays en ce moment. Or, si on acceptait les autres avec leurs particularités et tout, je crois qu'il n'y aurait pas eu ces troubles qu'on connaît, qui continuent, qui peuvent se perpétuer jusqu'à présent. Donc, cet atelier vient à point nommé. Il faut qu'ils aillent au fond des villages, faire la restitution de ce qu'ils auront à apprendre ici pour que les gens puissent s'accepter. Une personne, c'est une personne, il faut l'accepter telle qu'elle est. Parce que là, j'ai eu à gérer, rien que dans la sous-préfecture de Bossangwa, des gens qui ne s'acceptaient pas. Parce que celui-là est de tel village, celui-ci est de tel village, et ainsi de suite et tout. Alors qu'on est dans la même préfecture, dans le même pays. Je crois que cet atelier, à la fin, les gens pourront chacun de son côté essayer de cultiver l'esprit de tolérance, faire passer le message à tout le monde pour que le vivre ensemble puisse revenir dans la sous-préfecture, la préfecture et dans le pays, pourquoi pas.
Lira FM.
Réhabilitation du marché central et des maisons détruites. Soutien aux populations d'activités génératrices de revenus. L'ONG MerciCorps est très active à Bakala dans la reconstruction post-crise. Sur les différentes activités de cette ONG à Bakala, Julien Mandika, en charge de la gestion des non-vivres, explique et répond à François Gambaï.
Les activités que nous menons à Bakala concernent la réhabilitation du marché central de Bakala, aider les femmes pour les activités génératrices de revenus, aussi intervenir dans le domaine de réhabilitation des abris. Donc on va procéder aux critères de sélection pour faire les travaux de cash for work, c'est-à-dire les gens qui seront retenus, c'est eux qui vont être utilisés pour les différents travaux que je viens d'énumérer.
En ce qui concerne donc la réhabilitation par exemple des abris, ça veut dire que tous ceux qui ont eu leur maison cassée, pillée pendant la crise, MerciCorps va les réhabiliter, ce que vous voulez dire?
structures
pour aider les déplacés, les retournés et les familles d'accueil. Nous avons des critères de sélection. Donc il y a des critères qui sont mis en place. C'est vrai, nous sommes tous des populations déracinées, mais on n'a pas tous les mêmes problèmes. Les critères, on va voir quelqu'un qui a plus de charges, quelqu'un qui a plus d'enfants à bas âge, quelqu'un qui héberge des familles, des parents qui sont âgés. Ce sont des gens, par exemple, comme ça, qu'on va retenir pour essayer de les appuyer.
Signature ce 20 mars par 50 présidents africains d'un accord sur le libre-échange continental. Le secrétaire général des Nations Unies a félicité ce 22 mars les dirigeants africains pour avoir signé, à Kigali au Rwanda, la zone de libre-échange continental, ZLEC, créant ainsi l'un des plus grands blocs commerciaux du monde avec plus de 50 pays. Antonio Guterres a salué le leadership du président Paul Kagame du Rwanda, le président Mahamadou Issoufou du Niger et le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, qui a dirigé le processus. La ZLEC, projet phare de l'Union africaine en réflexion depuis 2012, pourrait réunir 1,2 milliard de personnes avec un PIB cumulé de 2500 milliards de dollars. Elle s'inscrit dans le cadre d'un processus qui doit mener à la création d'un marché commun d'ici 2028 et d'une union économique et monétaire en Afrique. Pour entrer en vigueur, la ZLEC doit être validée par un vote des parlements de chaque pays.
Guira FM, dossier sport.
La Coupe du Long 2 du président Faustin Archange Touadéra ne se jouera pas qu'au niveau de la Ligue de Bangui, mais aussi dans les arrondissements. Hier après-midi à 15h, sur le terrain de l'école Saint-Jean, le 5e arrondissement a joué contre le 6e et puis le dernier quart de finale opposera ce vendredi, sur le terrain de Bimbo, le 7e et Bégoua. Parlons toujours de la Coupe de l'an 2000, cette fois du côté de la Ligue. Les demi-finales se disputeront le week-end au stade Barthélemy Bouganda. Le samedi, la première rencontre mettra aux prises la Estampette Mokaf et l'Olympique Real, tandis que le dimanche, toujours au stade de Barthélemy Bouganda, les Anges de Fatima affronteront DFC 8, Diplomate Football Club du 8e arrondissement.
L'invité de la rédaction.
Le législateur centrafricain a institué en 2016 une loi sur la parité entre hommes et femmes. Si pour les femmes cette loi est bienvenue pour réparer un vide juridique en la matière, le contenu de cette loi reste malheureusement peu connu des femmes. C'est pour une meilleure vulgarisation de cette loi qu'à l'occasion de la Journée internationale de la femme, célébrée en différé le 14 mars dernier à Bakala, la plateforme des femmes de la localité a été instruite sur la question par le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Mambaré. Éric Arnaud Tandio répond à François Gombayi dans le cadre de l'invité de la rédaction. Entretien.
Éric Arnaud Tandio. Bonjour.
Monsieur François, bonjour.
Vous venez d'instruire les femmes de Bakala sur la loi de la parité. Que dit la loi centrafricaine sur cette question?
Évidemment, dans le cadre de la Journée internationale de la femme, il nous a été demandé de présenter une communication aux femmes leaders de Bakala portant sur la loi numéro 16.004 du 24 novembre 2016 instituant la parité entre les hommes et les femmes en République centrafricaine. En effet, au terme de l'article 2 de la loi précitée, la parité s'entend de l'égalité numérique des hommes et des femmes dans la représentation au sein d'une institution ou organisation. Aussi, l'article 7 de la même loi prévoit expressément, je cite, « un quota minimum de 35% des femmes est requis sur la base de leurs compétences dans les instances de prise de décision à caractère nominatif et électif, tant dans les structures étatiques que privées. »
Parité, d'accord, mais comment y parvenir?
Pour y parvenir, il faut beaucoup plus de la volonté politique, puisque vous n'êtes sans ignorer que dans les administrations, tant publiques que privées, les femmes sont sous-représentées. C'est justement dans ce cadre que le législateur a élaboré et adopté la loi, laquelle a été promulguée par le président de la République en date du 24 novembre 2016.
À vos yeux, en tant que spécialiste du droit,
Qu'est-ce qu'il faut faire justement pour que cette loi sur la parité puisse atteindre ses objectifs?
La loi a mis en exergue le critère de compétence. Pour accéder à de hautes fonctions administratives par exemple, les femmes doivent obtenir le diplôme requis. Or, nous nous apercevons que beaucoup de femmes ne sont pas nantis de diplômes de haut niveau. Ne vont même pas à l'école. Par exemple, nos filles de Bakala et bien d'autres localités de la République centrafricaine. Donc le message que nous lançons, c'est d'encourager fortement nos filles d'aller à l'école, de se mettre résolument au travail pour que peut-être d'ici 2030, on puisse véritablement obtenir le principe de parité 50-50 comme d'aucun ont tendance à le souligner.
Au cours de cet exposé également, vous avez évoqué la question lancinante de la sorcellerie. Alors, sous quel angle l'avez-vous abordé?
Cette question, monsieur François, a été abordée sous l'angle juridique. Il a été constaté que les personnes de troisième âge ont fait l'objet d'accusations à tort de pratiques de sorcellerie. Et il s'en est suivi des violences, lesquelles ont même entraîné la mort de ces personnes-là. En la matière, nous avons fait remarquer qu'il appartient aux instances judiciaires compétentes d'établir les preuves formelles de sorcellerie et d'en tirer toutes les conséquences de droit qui s'imposent.
Malheureusement, dans les localités les plus reculées, on n'appréhende pas la question sous cet angle que vous évoquez. Des gens se rendent même justice. À ce niveau, qu'est-ce que vous avez à dire aux populations pour éviter surtout la justice populaire?
Vous savez qu'au sujet de la sorcellerie, nous avons toujours combattu la vindicte populaire. Nous avons toujours donné des exemples assez simples. Des enfants qui souffrent de paludisme. Les parents déduisent que c'est des cas de pratique de sorcellerie et s'en prennent à tort à ces personnes-là. Donc désormais, il est vivement conseillé à ces parents d'amener les enfants à l'hôpital, que les médecins les consultent, que les médecins posent des diagnostics et qu'ils disent ce qu'est le type de pathologie. Voilà un peu nos attentes. Mais en tout cas, ce qui se permettrait de se faire justice eux-mêmes, c'est-à-dire la justice privée, au niveau du parquet de la République, nous en tirons toutes les conséquences. C'est-à-dire traduire ces personnes-là qui voudraient bien faire justice elles-mêmes devant les juridictions compétentes.
Que dit le législateur centrafricain concernant la sorcellerie? Que dit la loi? La sorcellerie est-elle reconnue par le législateur centrafricain?
Le législateur consacre cette incrimination dans le code pénal de la République centrafricaine. Le législateur est resté laconique dans la définition des pratiques de sorcellerie.
Que dit-il exactement?
Ce sont des pratiques susceptibles de porter atteinte à des personnes ou des biens. Voyez, les éléments constitutifs de cette infraction n'ont pas été mis en exergue le plus clairement possible par le législateur. Alors, mais que voulez-vous? Puisque le législateur consacre l'incrimination, il peut s'agir de délits, il peut s'agir de crimes. Nous, au niveau de la justice, nous faisons sainement application de la loi, dès lors où ces faits venaient à être établis.
C'est là que vous parlez de l'intime conviction du juge dans l'appréciation de ce genre d'infraction.
En partie, vous avez raison, mais on se réfère beaucoup plus aux éléments de l'enquête, aux témoignages recueillis, peut-être à l'enquête préliminaire, peut-être au cours de l'instruction préparatoire, et on en tire toutes les conséquences de droit qui s'imposent.
Pour terminer, Eric Arnaud de Tandio, vous êtes procureur de la République près le tribunal de grande instance de Bambari. À partir du Bacala, quel message aux femmes concernant la parité et concernant la sorcellerie?
À toutes les femmes de la République centrafricaine, nous leur conseillons de se mettre au travail pour permettre la mise en œuvre de la loi instituant la parité entre les hommes et les femmes. Puisque ces femmes ne sont pas ignorées que les critères de compétence priment en matière de nomination dans les emplois étatiques ou non étatiques.
Eric Arnaud de Tandio, je vous remercie.
C'est moi qui vous remercie, monsieur François.
Je rappelle que vous êtes le procureur de la République après le tribunal de grande instance de Bambari.
C'est avec Eric Arnaud Tandio, procureur de la République près le tribunal de grande instance de Bambari, que se referme ce journal. Mais avant de nous quitter, voici le rappel du sommaire. Lutte contre l'impunité en RCA. En fin de visite de 3 jours en RCA, le procureur de la CPI a été reçu ce jeudi par le chef de la MINUSCA. Vous avez suivi les détails dans ce journal. Reconstruction post-crise à Bakela. L'ONG Merci Cœur s'implique. Et enfin, 44 pays africains signent un accord créant une zone de libre-échange continentale, perçue comme essentielle au développement économique de l'Afrique par le biais d'une hausse du commerce intra-africain. C'était à la une de ce journal.
Dira FM.
Merci de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité aux manettes Jean-René Sénat. À la présentation, Julie Tadé. Gardez l'écoute sur la 93.3 Dira FM, les ondes de la paix et de l'unité. Au revoir.